Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs, et sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 154e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 5 mars, il est exactement 10h10 et nous allons une nouvelle fois parler de l'Arkea Ultimate Challenge Brest avec un invité unique aujourd'hui. Il est membre de la cellule de routage du team Sodebo Voile de Thomacoville. Il s'agit de Philippe Legros, avec lequel nous allons décrypter le fonctionnement de cette cellule de routage et le tour du monde du skipper de Sodebo Ultimate 3. Salut Philippe, Philippe qui est chez lui du côté de Begmail. Salut Philippe.
Salut Axel.
Philippe, avant d'échanger avec toi un petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Mardi dernier, au moment de l'enregistrement du 153e épisode, Charles Caudrelier venait tout juste d'arriver à Brest, vainqueur de la course Tour du Monde en ultime et en solitaire en un peu moins de 51 jours. Il a été suivi jeudi de Thomacoville, deuxième un peu plus de 2 jours, et dimanche soir d'Armel Lecléache qui est arrivé 5 jours et demi après le vainqueur. Mardi matin reste en mer Anthony Marchand, pointé au moment où on se parle à environ 2900 milles de l'arrivée et attendu dimanche à Brest. Derrière lui à environ 500 milles et sur le point de franchir l'équateur, on trouve Éric Perron qui ferme la marche. Philippe, on va commencer avec toi par décrypter un peu le fonctionnement de la cellule de routage du team Sodebo Voile. Raconte-nous un peu déjà comment s'est constituée cette cellule de routage.
Eh ben, écoute, la cellule s'est constituée autour de Will Oxley et moi-même. Travaillons avec Thomas, moi depuis 2019 et puis Will depuis l'avant-dernière Transat Jacques Vabre. Pour ce tour du monde, on a souhaité avoir du renfort parce que c'est un travail intense quand même. Et donc on a fait appel à Dominique Vitet, qui était disponible et puis qui répondait aux attentes de Thomas. Et donc on a fait un pôle à trois avec Will Oxley présent en alternance parce qu'il avait aussi d'autres obligations professionnelles en parallèle. Donc on a fait des phases à 3 pour les moments les plus forts et puis des phases à 2 avec juste Dominique et moi.
Tu peux nous dire un mot sur Will Oxley que nos auditeurs ne connaissent pas forcément, navigateur et routeur australien, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors Will c'est culture anglo-saxonne, c'est quelqu'un qui est océanographe de formation, qui a une énorme culture à la fois de navigation pour le côté météorologie du terme, mais aussi une énorme culture de navigant. Il a fait la Volvo avec Camper, il a fait partie de beaucoup de campagnes. C'était aussi le navigateur de Comanche, le maxi de 100 pieds. Là. Donc c'est un navigateur qui court encore beaucoup et qui a ce côté à la fois de navigateur et navigant. Donc même s'il connaissait pas très bien le bateau, il a une grosse connaissance de ce qui est être sur l'eau.
D'accord, il a, je crois, aussi navigué, si je me souviens bien, en Imoca, aux côtés d'Alex Thompson. Pourquoi le choix de Dominique Vitet pour vous accompagner? C'est Thomas qui a fait le choix. Comment vous avez fait ce choix et comment ça s'est passé avec Dominique? Est-ce que tu connaissais? Est-ce que vous aviez déjà collaboré ensemble?
Alors écoute, on n'avait jamais travaillé avec Dominique. Le choix s'est fait comme bien souvent au hasard d'une rencontre et puis d'une discussion. On a commencé à travailler un peu avant le tour du monde ensemble. Il a apporté sa pierre à l'édifice avec ses spécificités et puis ça a fait un trinôme assez complémentaires en fait. Mais nous, on n'avait pas travaillé ensemble avant.
Raconte-nous un peu comment vous avez fonctionné. Will Oxley est chez lui en Australie. Est-ce que ça veut dire que Will faisait un peu la permanence de la nuit et vous, vous répartissiez la journée? Comment vous avez fonctionné au quotidien?
C'était un peu l'idée au départ d'avoir ce relais pour avoir Will qui travaillait plutôt quand c'était la nuit pour nous et nous le jour. Fond de cette idée, c'était aussi quand même que avec tous les outils qu'on a maintenant, comme tout se fait par écrit, par message échangé, tout ce travail-là est quand même travail d'ordinateur. L'idée de base était que ça allait apporter une continuité, une complémentarité. Si c'était à refaire, je ferais pas forcément comme ça, parce que c'est au final un travail H24 en continuité permanente. Et puis les phases de liaison en fait sont les phases les plus difficiles. Ce côté-là que je pensais être un point fort, au final, à mon avis, était un point faible.
C'est-à-dire que c'est de la perte de temps de réexpliquer tout au moment du passage de relais, c'est ça?
Ouais, il y a plusieurs obstacles. Il y a le fait d'être d'un côté en continu dans une maison routage et puis quelqu'un qui est extérieur à ça, où forcément il y a des choses qui se font par oral, en direct, qui passent pas très bien par les canaux écrits. Et puis il y a eu un petit obstacle de langue aussi qui fait que par moment on était en français, par moment on était en anglais. Et ça peut aussi introduire des discontinuités. Il y a eu des points forts, hein, dans cette collaboration, mais il y a eu des points faibles. Des bonnes, mais il faut la retravailler un peu différemment.
D'accord. Vous étiez donc avec Dominique dans une maison routage. Est-ce que toutes les équipes avaient leur maison routage? Vous étiez installé où?
Écoute, on était, si je ne me trompe, très proche de la maison routage de Banque Populaire et de la maison routage du Gitana. Nous, on était à Pleumeur. Je crois qu'ils étaient à l'Amorplage. Donc, on avait une chouette maison avec quoi faire dormir tout le monde, avec un cuisinier qui nous apportait des repas. On avait le privilège incroyable d'avoir une vue sur mer pour se sentir aussi un peu en mer. Et puis on était H24 dedans, avec aussi le soutien de l'équipe. On avait très régulièrement pour nous soutenir Frédéric Denis, Thomas Rouxel, Léo Legrand. On avait Corentin Lemoine aussi, qui est notre ingénieur informatique qui est là pour tout ce qui est problème de communication ou développement de logiciel. Donc c'était vraiment une équipe en continu qui tournait dans cette maison-là. On a cherché à toujours avoir vraiment un répondant pour le bateau qui soit H24, mais pas que H24 minute par minute, quoi.
Quand tu parles de H24, ça veut dire que pendant les 53 jours qu'a duré le tour du monde de Thomas, vous êtes quasiment jamais sorti. Est-ce que pendant ce temps-là, t'as pas vu ta famille, t'as pas fait de sport ou est-ce que t'as quand même eu quelques moments de respiration de temps en temps?
On pensait s'accorder quelques moments de respiration. Pour tout dire, on avait amené de quoi lire, on avait amené de quoi regarder un ou deux films ou des choses comme ça, mais on n'a pas réussi. Et pour ce qui est du sport, il va être temps de le reprendre.
Vous n'avez pas réussi parce que c'est trop prenant, parce que vous étiez, c'était impossible de lâcher, de sortir la tête de la course, ou en raison du rythme, des demandes de Thomas, pourquoi vous n'avez pas réussi?
Pourquoi on n'a pas réussi? Alors oui, c'est prenant, oui, c'est H24. La demande de Thomas était quand même d'une communication très très régulière, souvent plusieurs fois par heure. Il y a eu aussi un changement dans ce tour du monde par rapport à ce qui se passait avant, c'est que le bateau était équipé de Starlink, ce qui rend en fait la communication parfaite et continue, que ce soit en vidéo, en phonie, en audio. Il y a plus aucune coupure, quoi. Pour le coup là, on a vraiment passé un step au-delà de ce qu'est Fleet, Certus, qui sont les autres systèmes de communication. Le Fleet, il y a la taille des fichiers pas très importante, mais la latence en vocal est assez forte. Et puis le Certus permet de faire passer des fichiers, mais avec des micro-coupures qui font qu'une communication et pas toujours très efficace. Et le Starlink a vraiment changé ça.
Est-ce que tu peux me raconter rapidement quelle était une journée type dans la maison routage de Plumeur?
Je sais pas s'il y a eu une journée type. Non, en fait, la particularité de ces bateaux-là, c'est qu'ils vont très très vite. Un système météo, ça se déplace entre, on va dire, 15 et 35 nœuds pour les systèmes météorologiques classiques. Ces bateaux-là, ils vont souvent au-delà de 30 ou 35 nœuds. Et du coup, on est confronté à des nouvelles situations, en fait, très très régulièrement, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures. Et c'est peut-être ça qu'on n'avait pas très bien anticipé, c'est que ça s'arrête jamais, en fait. C'est chaque question à laquelle on a fini de répondre amène juste la prochaine question. Donc, ça fait qu'il y a une continuité, un fil à maintenir en permanence. Et puis, je pense que l'autre domaine que tous les skippers ont exprimé à leur arrivée, c'est que l'engagement physique, en fait, il est tellement intense. Ils ont peu de temps pour regarder la météo à court, moyen ou long terme.
Est-ce qu'il, du coup, ça veut dire qu'ils vous challengent moins que tu l'imaginais? Ils ont moins la tête dans les fichiers, ils comptent beaucoup plus sur vous, pour les trajectoires, pour les choix de route?
Pour nous, ça a été le cas. Par contre, ça veut pas dire qu'ils nous challengent moins, ça veut dire qu'ils nous challengent plus. C'est que une fois qu'ils sont en face, ils disent, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est pas facile de partager des visions ou des discussions parce qu'ils sont vraiment la tête dedans, quoi.
Ouais. Et ça veut dire que vous avez eu des discussions parfois animées avec Thomas qui comprenait pas ce que vous vouliez lui faire faire.
Oui, on a eu ces discussions-là. Ça me paraît très normal dans le sens où on a affaire à des navigateurs qui sont parmi les meilleurs de la planète, qui sont sur des bateaux les plus extrêmes de la planète, et la tâche de leur dire quoi faire, parce qu'au final, c'est ce qu'on doit faire, c'est pas aisé, quoi.
Ouais, bien sûr. Compte tenu de tout ce que tu viens de nous dire, j'imagine que un peu comme les navigateurs, vous terminez un petit peu sur les rotules après 53 jours de mer avec Dom et à distance Will Oxley.
Oui, clairement. Clairement. Après, on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Hein. Enfin, en termes de durée, tu peux comparer ça au montage d'un Jules Verne, mais il n'y a pas la pression de la compétition. Il n'y a pas les autres bateaux. Sur un Jules Verne, tu as une météo qui est choisie, on va dire, quasiment sur les 10 premiers jours. Là, tu es en réaction à une date de départ et une météo qui est celle qu'elle est au moment où tu pars. Donc l'intensité est beaucoup plus forte d'entrée de jeu. Et le plan, il est à construire, à reconstruire toutes les 12 heures, ce qui n'est pas le cas d'un Jules Verne. Donc c'était expérimental.
Bon, on va justement refaire un petit peu la course de Thomas. On va revenir en arrière le 7 janvier, date du départ de cet Arkéa Ultimate Challenge Brest, donné dans des conditions plutôt idéales, hein. On se souvient des belles images du départ avec brise de 10-15 nœuds de nord-est, grand soleil, et entame donc du coup plutôt sereine pour les 6 bateaux. Quels sont un petit peu au moment du départ les premiers enjeux météo pour vous, pour j'y mets tous les teams et vous en particulier? Particulier à Philippe.
Ben, écoute, le moment du départ, c'est un moment que tout le monde attend, que tout le monde prépare depuis longtemps. C'est un moment où les premiers enjeux, en fait, enfin le premier enjeu assez fort pour ces bateaux-là, que on est proche des vitesses de vent où les bateaux décollent ou ne décollent pas. Les différentiels de vitesse à ce moment-là sont très très importants. En fait, on prend 3, 4, 5 nœuds de vitesse bateau avec 1 à 2 nœuds de vent. On part avec des bateaux qu'on connaît pas très bien parce que en fait ils sont très chargés à ce moment-là, ils sont chargés pour un tour du monde, que les bateaux sont lourds, donc il y a cette première interrogation. Et puis après il y a l'interrogation du rythme à mettre, hein. C'est tour du monde, ça a jamais été fait avec ces bateaux-là, c'est inconnu. Comment il faut attaquer, on a du vent qui fait qu'il faut engager des manœuvres assez rapidement. En particulier des manœuvres d'empannage, qui sont des manœuvres assez lourdes. Et donc, il y a cet inconnu du rythme à mettre, de comment on se positionne par rapport à la flotte en stratégie, mais aussi en tactique. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on défend, est-ce qu'on est prudent, est-ce qu'on cherche à être devant tout de suite, c'est plein de questions dès le départ.
Et en l'occurrence, quelles ont été les réponses?
Bah, écoute, la réponse s'est faite dans le fonctionnement de la flotte, quoi, où tout de suite tout le monde a attaqué. Donc, il a fallu répondre d'entrée de jeu, quoi. Il y a eu un petit jeu de trajectoire dans le Golfe Gascogne dès le début. On a vu tout de suite Actual faire simple mais efficace. On a vu Banque Populaire attaquant, comme on s'y attendait, puis comme on les connaît. Et puis puis Gitana, SVR et nous, on va dire plus conformistes ou plus mesurés.
Premier obstacle météo à peu près après Madère, un gros front. Thomas avait expliqué un peu après le passage de ce front que c'est quelque chose que vous regardiez depuis le départ et qui l'appréhendait un petit peu. Quelle est un peu la stratégie dans ce front? Est-ce que Thomas, après coup, a expliqué avoir été un peu prudent à ce moment-là de la course? Est-ce que, au regard de ce qui s'est passé après des premiers petits écarts qui se sont créés, est-ce qu'on peut dire qu'il a peut-être été trop prudent, quels ont été les échanges entre vous à ce moment-là?
Alors c'est sûr que ce front, il dicte pas notre trajectoire. Il est au centre de nos préoccupations depuis le début. Il dicte pas tant que ça notre trajectoire parce que avant en fait on est dans une longue période sans vent pour tout le monde, ce qui nous rend pas très mobile par rapport à lui. Après on cherche tous manifestement à l'attaquer le plus sud possible pour l'avoir de façon la plus atténuée possible. C'est rigolo d'ailleurs parce que ça nous ramenait vraiment. On a parlé un peu avec Will pendant la course à une situation similaire qu'on a eu pendant la route du Rhum. On sait tous qu'on a besoin d'aller vers ce front, mais on attend, on regarde, on espère à chaque fichier qu'il va un peu diminuer, on attend de voir les autres, on espère que personne va y aller trop tôt, trop fort. Sur la route du Rhum, nous, on y était allé franco, c'est bien passé. Sur cette course-là, c'est pareil, on est 4 jours après le départ, donc c'est très très tôt dans la course. Personne n'a envie de prendre trop de risques, et puis au final, ben, là, ça attaque Franco, en fait, même encore plus qu'à la route du Rhum. Charles, il part un peu par en dessous, en vitesse face à la mer. Nous, on essaye d'atténuer le truc, mais bon, on parle de détails, hein, on parle de 20, 30 000 de latitude. Les fichiers météo sont pas précis à ce point-là sur savoir si le grain il va être un peu plus nord ou un peu plus sud. Après, c'est un front qui marque la course d'entrée de jeu. On la prendra un peu plus tard avec Gitana, mais c'est là qu'il a mis son bateau. Nous, on passe pas super bien, on y perd 1 heure ou 2, Cap au Nord. Armel, pareil. Charles réussit à ce moment-là pas la manœuvre parfaite. Il arrive à virer dans. C'est un front qui est très très violent, hein, qui est surtout marqué en fait par une bascule d'angle incroyablement rapide qui se fait en, je sais pas, moins de 3 minutes ou quelque chose comme ça, une bascule de 50 à 70 degrés de vent. Donc tout seul sur ces bateaux-là, ouais, il n'y a pas pire, quoi. Et puis en fait, la sortie de ce front, derrière t'as du nord-ouest, t'as du portant sur la route directe. Donc c'est sûr que là, le 1000 que tu as perdu, ben il fait x10 en fait pendant plusieurs jours après.
Ouais. Et vous en avez conscience à ce moment-là, vous dites que vous perdez une première bataille en sortant avec du retard de ce front. Et est-ce que Thomas en a conscience? Est-ce que comment vous échangez là-dessus, j'imagine, avec lui?
Oui. Thomas, il sort pas. Enfin, il sort en petite forme de ce front-là. Parce que la bataille physique qu'il y a derrière. Le bateau, enfin Thomas il se fait prendre à contre, il se retrouve avec les voiles à contre, avec le bateau arrêté, et tout ça, donc là faut tout refaire, quoi, faut enchaîner, virement, empannage, abatté, tout ça avec, enfin avec le vent fort, mer forte, orage, rafale, enfin c'est l'enfer, quoi. Je crois que Armel là c'est bien décrit aussi d'ailleurs, hein, c'était un moment clé.
À ce moment-là, donc les SVR et Gitana prennent l'avantage. Vous sortez à peu près au même niveau avec Armel, avec le début du duel qui va finalement être un peu le fil rouge de la course entre Armel et Thomas. Armel annonce son premier arrêt à Rescif dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on pense dans la cellule de routage? J'avais posé la question à Charles Caudrelier quand il est arrivé mardi en lui demandant qu'est-ce qu'il pense, quelles étaient un peu ses réactions à chaque fois qu'il apprenait un arrêt d'un marin. Donc lui il disait qu'il était forcément triste pour eux, mais en même temps aussi un petit peu soulagé. Est-ce que au sein des cellules de routage, c'est un peu la même réaction? On se dit une concurrence en tout cas momentanée en moins?
Non, c'est pas vraiment l'esprit. Ouais, forcément, c'est plus facile, hein. Quand ils s'arrêtent, tu les rattrapes, hein. Ou tu prends de l'avance. Mais non, je crois que à ce moment-là, on est encore. Enfin, encore une fois, c'est une aventure, hein. une aventure pour tout le monde, c'est aussi une aventure pour la classe ultime. Il y a quand même une solidarité dans le sens où on arrive à tenir ce projet et on arrive à montrer qu'il est viable. S'il y a plein de bateaux qui, enfin, s'il y a la majorité des bateaux qui arrivent, quoi. Pour moi, ça reste le premier objectif.
Oui, bien sûr. Est-ce que quand vous êtes un peu au duel, comme vous l'avez été pendant une bonne partie de la course avec Armel, surtout, est-ce que vous passez votre temps à vous comparer, vous passez votre temps à regarder ce que font les autres bateaux? Est-ce que c'est une partie très importante je sais pas, qu'est-ce que ça représente en termes, en quantité de travail par rapport à l'ensemble du travail de routage que vous faites? C'est 20%, 30%, 40% de votre temps à analyser les trajectoires, à imaginer peut-être les configurations de voile, de réglage de foil des concurrents.
Alors oui, il y a forcément un suivi très proche des concurrents. Nous, on en a automatisé une partie, donc on c'est des informations qui sont facilement accessibles pour nous. Après, traiter ça, c'est pas facile parce que comme tout est long sur ces bateaux, comme tout est enfin, chaque manœuvre coûte très cher et tout ça. Les bateaux sont pas souvent dans les mêmes configurations de voilure. Chacun a ses problèmes. S'il y a deux, trois nœuds de vent en plus, le bateau va 10 nœuds plus vite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à pondérer, quoi. Dès que t'es pas bord à bord sur ces bateaux-là, les différences, elles peuvent être monstrueuses. Donc il faut pas se laisser emporter non plus par ça.
On continue à dérouler cette course autour du monde, donc contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène le long des côtes sud-américaines. Là devant, il y a un gros rythme toujours mené par SVR et Gitana qui sont au coude à coude. Hein, et je crois qu'ils sont pas lâchés. Ils ont été dans 30 000 à peu près pendant les 10-11 premiers jours de course. Est-ce que vous, comme Thomas l'a un peu expliqué aussi à l'arrivée jeudi dernier, vous dites qu'il pousse un peu trop fort? Et que finalement, ça va peut-être mal se finir entre guillemets pour un des deux.
Dans la tête de Thomas, je sais pas. Dans la gestion de course, c'est pas quelque chose qu'on a mis en priorité parce que, en fait, à ce moment-là, on est dans un cas très très classique de tous les tours du monde. C'est que quand tu arrives au large de Cabo Frio, là, il y a le premier contact, en fait, la première. Ouais, c'est ça, la première prise de contact avec les systèmes du sud, et puis le premier en fait qui arrive à accrocher ce flux portant, en fait le jackpot, il peut durer 10 jours voire plus. Donc nous à ce moment-là, la priorité c'est de se dire il faut pas changer de système météo par rapport aux autres. Eux vont être devant la dépression et d'ailleurs celle qui a emmené Charles très très loin jusqu'à l'Australie si je dis pas de bêtises. Et donc la priorité, elle est vraiment là. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Thomas fait, je pense, c'est les journées les plus rapides du Tour du Monde, où on doit faire du 36, 37, 38 nœuds pendant des heures et des heures à la vitesse de déplacement de ce front-là. Et puis on y croyait un peu au début. Au moment où il accroche l'arrière du front, on n'y croit plus, parce qu'à ce moment-là, nos routages nous disent que de toute façon, on va se faire passer, puis on va se retrouver dans le vent sud-ouest derrière. Et puis au final, il arrive à aligner des moyennes fortes qui... Donc quand on s'approche de Bonne Espérance, là on est enfin, un peu avant, on est encore devant, on a réussi ce pari-là est réussi. Et puis là il y a l'avarie.
Raconte-nous un peu cette avarie, qu'est-ce qui se passe à bord de Sodebo Ultime 3 à ce moment-là?
Et ben on a un problème sur la descente de foil, qui fait qu'on n'arrive plus à tenir le foil en bas, donc on n'a plus de foil.
D'accord, c'était le foil tribord, hein, si je me souviens bien.
Que je réfléchisse. Non, le premier c'est le foil bâbord, je crois.
Quand vous apprenez ça, bah forcément, déception pour autant pour Thomas que pour vous. Et dans ce cas-là, quels sont un peu les raisonnements? On refait un peu toutes les polaires en fonction du handicap du bateau. Comment ça se passe au niveau de la cellule de routage? Il faut un peu changer son mode de pensée, de fonctionnement. Raconte-nous un peu.
Ouais, là, faut tout changer. Alors, il y a deux démarches, enfin, il y a même trois démarches, on va dire, qui se mettent en branle. La première, c'est au niveau cellule routage, c'est effectivement essayer de reconstituer des polaires avec ce handicap. Donc là, en l'occurrence, au début, c'est une polaire dissymétrique avec un bateau qui va être à 70% de ses capacités d'un côté et puis un tack de l'autre. Il y a une deuxième démarche technique qui se met en route, qui est qu'est-ce qu'on peut réparer, qu'est-ce qu'on peut chercher, et puis il y a une troisième démarche qui est la cellule globale de stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? On a bonne espérance au nord, est-ce qu'on y va ou pas?
Et alors, est-ce que ça a été longuement débattu? Est-ce que vous avez sérieusement envisagé cette hypothèse de s'arrêter au Cap?
On l'a assez vite évacué. Alors, on en avait déjà parlé avant la course, en fait, parce que on savait tous, hein, toutes les équipes, que dans ce Tour du Monde, il y aurait un enjeu sur les escales, à faire ou à pas faire. Bonne Espérance, paraît une escale facile comme ça, mais en fait, Bonne Espérance, c'est très très loin de la route. Et puis les conditions météo autour de Bonne Espérance sont souvent marque une transition très très brutale entre le sud de l'Afrique et puis l'océan austral, donc c'est pas facile de le rejoindre. C'est ce qu'a expérimenté Actuel d'ailleurs, hein, en étant obligé d'aller dans le cœur de leur cyclone pour rejoindre Bonne Espérance. Donc on évacue assez vite cette option, et puis après on rebascule sur la technique, sachant que en plus à ce moment-là, nous on est dans une situation un peu isolée, on est à la fois loin derrière et loin devant, donc on a du temps pour faire notre route et prendre la mesure de ce qui s'est passé exactement.
Thomas l'a raconté, mais cet OSR indien, il a l'air d'être particulièrement difficile déjà parce que d'un point de vue météo, comme vous n'avez pas réussi à accrocher le système, vous étiez un peu à l'arrière, donc dans des conditions souvent un peu plus compliquées, notamment au niveau des états de mer, et aussi parce que Thomas a passé beaucoup de temps à tenter de résoudre ce problème de système de descente de foil. Raconte-nous un peu comment il a vécu, comment vous il a vécu et comment vous, à distance, vous avez vécu cet océan indien.
Ouais, l'Indien c'est un peu l'enfer parce que en fait on se retrouve derrière un front qui avance en même temps que nous, qu'on ne peut pas franchir parce que à chaque fois qu'on se rapproche on bute dedans. Du coup, l'état de mer associé, et puis pour Thomas, c'est enfin toute manœuvre devient infernale et dangereuse parce qu'il faut qu'il aille sur le flotteur pour refixer les foils parce qu'on a trouvé un système, l'équipe technique a trouvé un système qui fait qu'une fois le foil descendu, on va en fait le bloquer en position, mais il faut aller sur le flotteur là où est le foil. Donc c'est ultra exposé quoi, c'est tout ce qu'on souhaite pas. Donc là on rentre dans une dynamique pas bonne du tout. On est en arrière du système, on manœuvrer le bateau c'est compliqué, dangereux. Plus les capacités de réponse, enfin tout est très diminué. On se retrouve avec un skipper qui du coup est encore plus fatigué, il souffre physiquement, qui a l'inquiétude d'avoir son bateau diminué. Ouais, là c'est un peu une descente aux enfers.
Ouais. Une descente aux enfers qui va finalement s'arrêter à Hobart parce que vous prenez la décision avec Thomas de vous arrêter donc au sud de la Tasmanie pour pas donc j'imagine que vous avez travaillé bien évidemment sur cette problématique de descente de foil, mais il y avait aussi il a arraché je crois son balcon et un filet avant qui rendait un peu les manœuvres encore plus dangereuses à l'avant du bateau. Cette décision elle est prise pour toutes ces raisons, et j'imagine que s'il n'y a pas une seule raison de s'arrêter, Philippe.
Ouais, et c'est exactement ça en fait. Alors déjà, pour le coup, autant l'escale à Bonne Espérance, elle coûte cher, autant l'escale en Tasmanie à ce moment-là, on le voit très bien avec la route du Bangkok d'ailleurs. Nous, on n'a pas d'opportunité de route vers le sud, proche de la zone des glaces où on n'a pas le passage qu'a pu avoir Gitana là. Donc naturellement, on passe nous très proche de la Tasmanie dans nos routes. Un peu derrière nous, on voit bien, c'est ce que fait Mangpop et qui nous inquiète à ce moment-là, que si on prend un peu de retard, et là c'est pas grand-chose, hein, on parle de quelques heures, la situation elle devient très critique. Du coup, il y a cette porte-là qui s'offre à nous, qui est proche de la route, et puis il y a une accumulation d'avaries sur le bateau devient trop forte pour se présenter dans le Pacifique et au Cap Horn.
Et vous dépêchez quelle équipe qui a été envoyée sur place pour faire cette réparation et cet arrêt qui aura finalement duré un peu plus de 2 jours?
Ouais, je crois que ça doit être 7 ou 8 personnes partent là-bas parce que on sait assez rapidement qu'on va pas se contenter de l'escale de 24 heures parce que la météo nous permet pas de repartir et que du coup la démarche c'est d'optimiser cette escale au mieux pour travailler un peu sur tous les compartiments du bateau. Du coup il y a un spécialiste de chaque domaine et de chaque métier de l'équipe là-bas.
Donc tu le disais, vous arrêtez un peu plus que les 24 heures autorisées, un peu plus de 2 jours, et vous repartez dans des conditions qui sont quand même loin d'être évidentes. Cette décision du départ, est-ce qu'elle est beaucoup prise aussi en considération de la concurrence qui renaît avec Armel, qui lui est en train de faire une route très atypique à ce moment-là et de passer au nord de la Nouvelle-Zélande pour laisser passer une très grosse dépression dans le sud?
Oui, c'est un des éléments majeurs de la décision, en fait, justement, à la différence de Bonne Espérance, où là, on est un peu loin derrière et loin devant, là, on n'est pas tout seul, on sait qu'il y a une opportunité, d'un demi-tour du monde devant nous, avec un concurrent qui sera pas très loin, là, on joue pas la cinquième place, hein, on joue la deuxième place, le podium, et puis à ce moment-là, on joue encore la première, hein, parce que tout peut être mis en question très très rapidement. Et donc, ouais, la décision de repartir sur une route avec du vent, hein, comme il y a là-bas, hein, du vent de la mer, avec un passage du sud de la Nouvelle-Zélande qui est violent. C'est un compromis entre, enfin c'est pas un compromis parce qu'on fait pas de compromis avec le sens marin et avec on sait que ça va être engagé, mais Thomas, il se sent capable de le faire, et c'est lui qui prend cette décision-là, d'ailleurs.
Cet arrêt, ça lui a fait. J'imagine qu'on n'est jamais content de s'arrêter quand on est en course sur un tour du monde comme ça. Mais est-ce que cet arrêt lui a fait finalement du bien, lui a permis déjà de dormir, hein, j'imagine, pendant 2 jours, il a pu souffler un petit peu?
Je crois que l'essentiel de cet arrêt-là, c'est que c'est vraiment un couple homme bateau en fait qui fait ça. Il y a un moment faut que enfin c'est l'un qui amène l'autre et l'autre qui amène l'un, et retrouver son bateau en état, ça change tout.
Oui, bien sûr. Donc après traversée du Pacifique, vous franchissez le Cap Horn quelques heures après Armel. Donc là, j'imagine que vous êtes focus à fond sur cette concurrence avec Armel. Dans cette remontée de l'Atlantique Sud, qui a été encore une fois bien difficile, hein, c'est souvent, on parle souvent en tout cas Thomas emploie le mot de Cap de la Bonne Délivrance, de Bonne Délivrance pour parler du Cap Horn, parce que c'est un soulagement de sortir des mers du Sud. Mais en même temps, cette remontée de l'Atlantique Sud est souvent très très pénible et fastidieuse. Elle l'a été pour vous?
Oui, bon, le Cap Horn c'est une délivrance, hein, mais effectivement c'est une délivrance de courte durée parce que après tu repasses dans des trajectoires sud-nord en fait où du coup les systèmes s'enchaînent très très vite, en particulier dans l'hémisphère sud où la remontée est agitée parce que l'influence du continent est très très forte et plus on a eu les glaces au Cap Horn, enfin on sort d'une période de stress forte. Puis nous à ce moment-là on cherche vraiment à naviguer avec moins de vent, moins de mer. C'est aussi ce que demande Thomas. On se fait même un peu piéger en allant chercher pas assez de vent à un moment, donc on rate le train de dépression, on repère beaucoup de distance avec Armel. Et voilà, maintenant on essaie de maintenir l'intégrité de notre bateau. On sent bien que faut finir quoi.
Tu disais, vous avez eu Thomas a eu des glaces au Cap Horn?
Non, on n'a pas eu de, enfin, on n'a pas vu de glace, mais on a passé 2, 3 jours. C'était d'ailleurs un moment assez sympa. On a passé, enfin sympa. Sais pas si le mot est approprié, mais entre équipe et direction de course, il y a eu beaucoup de discussions pendant 3, 4 jours, et puis de moyens mis en place pour vraiment analyser cette présence de glace aux abords du Cap Horn qui était avérée parce qu'il y a eu des signalements optiques, c'est-à-dire qu'il y a un iceberg qui a été vu. Et puis ça a été très collaboratif.
Ouais, justement, faisons juste un petit aparté avec ça. Est-ce que pendant tout ce tour de monde, vous avez des échanges avec les autres teams? Vous êtes concurrents, mais est-ce que vous échangez avec eux?
C'est un peu comme en mer, c'est tant qu'il n'y a pas de danger avéré, non, ça reste une compétition. Mais si à un moment il y a un danger et puis qu'on peut s'en protéger les uns les autres, on le fait.
Poursuivons cette remontée de l'Atlantique Sud. Donc, vous êtes à un moment, je crois, à peu près 600 000 ou même peut-être un peu plus derrière Armel, et qui finalement annonce qu'il doit s'arrêter une deuxième fois au Brésil, cette fois à Rio, pour deux avaries successives sur les safrans de Banque Populaire 11. Quand vous apprenez ça, alors tu disais tout à l'heure que on se réjouit jamais du malheur des autres et qu'on reste aussi très focus sur cette course, mais là quelque part c'est un peu la deuxième place qui vous tend les bras, c'est un peu comme ça que vous le prenez.
Oui, parce que là, oui, parce qu'on sort d'un moment difficile, et puis on sait aussi que à ce moment-là, Armel et Banque Pop, ils sont en sécurité, quoi. Je veux dire, ils font un arrêt, c'est un arrêt technique, quoi. Mais enfin, le skipper et le bateau, ils peuvent pas lui arriver grand-chose, mis à part de perdre du temps. Donc là, c'est effectivement, on repasse un peu en mode course, et on est content de retrouver cette motivation et puis cette envie d'aller chercher une place. Un peu meilleur que celle à laquelle on pensait.
Mais il y a encore un gros obstacle météo sur votre route qui a été évidemment pas assez compliqué pour Thomas, c'est le poteau noir. C'est un peu, vous vous dites, est-ce que vous vous dites ça? Est-ce que vous dites, bon, si on passe cet obstacle, compte tenu du départ, de l'escale assez prolongée d'Armel et des conditions qu'il a eues et qui n'ont pas été du tout faciles pour repartir de Rio, vous vous dites, voilà, il faut passer ce poteau noir et après, bon, si tout va bien, la deuxième place est à nous.
Alors c'est peut-être un truc qu'on se dit, c'est peut-être un truc qu'on se dit au niveau météorologique. Côté route, on est assez serein. Après, on est tellement sur la défensive de ce qui peut arriver au bateau que il n'y a pas eu de répit tant qu'il n'y a pas eu la ligne d'arrivée.
Ouais. Est-ce que vous regardez aussi, quand même devant vous, il y a Charles donc qui lui est sur le point d'arriver, il prend la décision de s'arrêter aux Açores, il va passer 3 jours aux Açores. Est-ce que j'imagine que même si vous étiez quand même encore assez loin derrière, vous faites des scénarios pour un éventuel possible retour de Thomas ou vous n'y avez jamais cru?
Non, non, il y a trop de distance, il y a trop de. Il y a ben Charles, on sait qu'il va repartir à 100% avec un bateau qui aura été vérifié. Il y a un super skipper, un super bateau, une super équipe. Non, là, ils peuvent pas rater ça.
Donc dernier mille contournement de l'anticyclone des Açores et après Thomas qui pointe l'étrave de Sodebo Ultime 3 vers Brest. Est-ce que même si tu dis qu'il y a toujours ce stress du bateau, de l'intégrité du bateau, est-ce qu'il y a un moment où vous commencez à ça commence un peu à relâcher la pression ou la pression elle se relâche vraiment qu'au moment où il a passé la ligne d'arrivée?
Au moment où il a passé la ligne, non, c'est dur jusqu'à la fin.
Ouais, et il vous le dit, et c'est dans les échanges que vous avez avec Thomas, vous sentez que c'est dur pour lui.
Oui, non, ça s'est pas arrêté avant la ligne.
Bon, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette arrivée jeudi dernier. Très belles images au moment où Thomas s'approche du goulet de Brest. On le voit arriver à quasiment 30 nœuds, un peu dans la grisaille, mais les images étaient magnifiques. Comment vous, sur l'eau, vous vivez cette arrivée? Raconte-nous un peu les émotions que tu as sans doute ressenties au moment de voir Thomas couper la ligne.
Ben écoute, bah déjà c'est beau parce que c'est des super beaux bateaux et puis que celui-là je le connais bien et puis que j'ai le privilège de naviguer dessus régulièrement et du coup même d'habitude je le vois pas de dehors donc c'est chouette de le voir arriver et puis après bah t'as ces espèces de tonnes là que tu portes sur tes épaules depuis 50 jours qui s'enlèvent d'un coup parce que là, quand il a franchi la ligne, ben, il y a tout qui s'enlève, quoi, d'un coup, quoi. Donc, et puis après, ben, tu vois que des gens heureux autour, et c'est une récompense.
Cette deuxième place, elle est finalement conforme à ce que vous espériez. Bon, forcément, vous visiez aussi la victoire, mais finalement, quand tu regardes le podium final de cette Arkea Ultimate Challenge Brest, vous êtes bien à votre place.
Écoute, je pense pas qu'il y avait de place attribuée sur cette course-là parce qu'il y avait une dimension course, mais il y avait aussi une dimension aventure. C'est comme tous les tours du monde, hein, même en Imoca et tout ça. Ça se banalise un peu maintenant, mais c'est pas banal du tout. On peut pas gérer tous les éléments, donc il y avait pas de. Si tu prends un peu de recul quand même sur les dernières transats ou l'histoire de cette classe-là, quand tu vois l'état des bateaux à l'arrivée de la dernière Jacques Vabre ou un truc comme ça. C'était pas impossible qu'on s'arrête tous en Afrique du Sud avec beaucoup d'éléments en moins sur les bateaux et tout ça. Donc moi j'ai pas fait de pari avant le départ de la course.
Ouais. Et est-ce que justement tu estimes que le pari de cette course il est réussi? Ces bateaux ont enfin fait le tour du monde. Alors certes en s'arrêtant tous, parce que même Charles s'est arrêté, même si pour lui c'était un peu moins des considérations techniques. Mais est-ce que bon, on espère que Anthony et Eric vont aller au bout de leur tour du monde, mais ça a l'air plutôt bien parti. Est-ce que selon toi l'objectif est rempli pour cette première édition de l'Arkea Ultimate Challenge Brest?
Ouais, je crois vraiment. Après, je pense touche la limite de ce qui est faisable.
Dans quel sens tu dis ça?
Bah, je crois que les marins l'ont bien exprimé à leur arrivée, hein, ils sont au bout d'eux-mêmes. Et c'est pas n'importe quel marin.
Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça se passe mieux dans 4 ans, normalement il y a une deuxième édition qui est d'ores et déjà prévue?
Écoute, on va progresser avec les bateaux, on aura déjà quand même énormément appris avec cette course-là. Il y a énormément de choses qu'on va pouvoir comprendre, améliorer et prévoir. Là, il y avait un côté imprévisible. Maintenant, ça a déjà été fait une fois, donc il y a plein de choses qu'on savait pas au départ, qu'on saura au prochain départ.
Très bien. Eh ben, écoute, c'était très intéressant de faire ce tour du monde avec toi, de refaire ce tour du monde avec toi. Quelle est la suite du programme pour toi, Philippe? Maintenant, c'est j'imagine déjà du repos. Est-ce que tu vas continuer à collaborer avec le team Sodebo ou est-ce que tu as d'autres envies?
Écoute, alors à très court terme, je pars à Paris avec ma famille pour aller faire de la culture.
Le touriste breton à Paris.
Voilà, aller faire un peu de musée, un peu de choses comme ça pour se changer les idées. À semi-court terme, je vais me remettre très vite dans la conception des voiles du bateau parce que c'est mon autre casquette avec ce projet-là. Et puis après, il va falloir ben, tirer les leçons de tout ça et puis savoir qui a envie de faire quoi. Pour moi, à court terme, le plus rapide, c'est de retourner sur l'eau aussi, parce que l'ordinateur, j'en ai marre.
J'imagine. Et retourner à l'eau sur ce bateau, tu vas, parce que là, j'imagine qu'il va rentrer en chantier pour quelques mois. Est-ce que ton unique occupation, c'est Sodebo Ultime 3 ou est-ce que tu as envie d'aller aussi naviguer sur les bateaux des autres?
Non, j'ai envie d'aller naviguer aussi sur des bateaux qui demandent, enfin, qui sont plus faciles à faire quitter le ponton.
D'accord. Et tu as déjà des projets précis en tête?
Non, pas de projet précis. En fait, j'ai tout donné là. Maintenant, faut penser à la suite. Mais ça permettait pas de demi-mesure en fait ce projet-là.
Bon, en tout cas, t'es plus léger de quelques kilos par rapport à mardi dernier à la même heure.
Ouais, ça c'est sûr.
Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Philippe. C'était passionnant de refaire ce tour du monde avec toi. Bravo encore pour tout le travail fait avec la cellule de routage de Team Sodebo Voile, tout comme celle des autres teams d'ailleurs. On attend bien évidemment Anthony Marchand normalement dimanche prochain, puis Éric Perron en début de semaine prochaine à Brest pour clore cette première édition de l'Arkea Ultimate Challenge Brest. On se retrouve quant à nous mardi prochain. Pour un 155e épisode de Pause Report, bonne journée.
Ok, bonne journée, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!